Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Seigneur des Radios, émission aujourd'hui consacrée à Tolkien et créée par les élèves de 3e 2 du collège Claude Chabrol d'Ain. Tous ensemble, nous allons essayer de découvrir ce personnage, son histoire, ainsi que ses œuvres. C'est parti! Tout d'abord, pour commencer cette émission, essayons de prendre connaissance de la vie de Tolkien. Pour cela, j'appelle Axel Born ainsi que Valentin Pion, qui vont nous conter les principaux événements de la vie de cette légende littéraire et culturelle. Allez-y, instruisez-nous.
John Ronald Royal Tolkien est né en 1892 à Bloemfontein, en Afrique du Sud, et est mort le 2 septembre 1973 à Bournemouth. Il fut professeur de vieil anglais à Oxford. Tolkien est surtout connu pour ses formidables œuvres de fiction. Ses histoires sont écrites pour être racontées à ses enfants, mais en les écrivant, il invente un nouveau genre, la fantasy. Tolkien devient le père des fantaisies. Celle-ci, outre des contes pour enfants, est surtout composée d'un extraordinaire cycle de légendes parlant de mythologie nordique, celtique et germanique, dans un monde magique, propice aux quêtes héroïques et autres tragédies épiques. Tolkien s'est attaché à construire de toutes pièces son propre monde imaginaire, destiné à être le théâtre des aventures qui hantaient ses rêves. Il lui a donné entre autres un nom, Arda, des divinités, Eru et les Valar, des peuples, les elfes, les hommes, les nains et bien sûr les hobbits, et des créatures qui lui sont propres, les Ents, les Balrogs, les dragons.
Voici quelques œuvres. Bilbo le Hobbit, premier roman de Tolkien, écrit en 1936, d'abord comme un conte pour enfants. Mais ce n'est qu'après sa publication que Tolkien réalisa que Bilbo pouvait être inclus dans la grande mythologie des terres du milieu qu'il écrivait depuis déjà longtemps. Le Seigneur des Anneaux, œuvre maîtresse de Tolkien, ses événements ayant lieu dans le nord-ouest des terres du milieu à la fin du troisième âge du monde, c'est-à-dire la guerre que mènent les peuples libres contre Saruman, le magicien, et Sauron. Le Seigneur des Ténèbres est la quête qu'entreprennent le hobbit Frodon et ses compagnons pour détruire un objet magique, l'anneau unique. Ses œuvres sont par la suite adaptées en version cinématographique. Le Seigneur des Anneaux en une trilogie publiée entre 2001 et 2003. Le Hobbit aussi en une trilogie publiée entre 2012 et 2014. Ces deux trilogies ont été produites par Peter Jackson.
Merci pour ce récit d'une vie décidément bien chargée. Il y a quelques secondes de cela, mes deux collègues ont brièvement abordé le fait que Tolkien créait de véritables civilisations dans ses ouvrages. Pour approfondir ce sujet, je vous propose d'écouter Madame Soleiller, interviewée par Milena Desloges, qui, je l'espère, nous éclairera sur cette profonde passion du romancier.
Bonjour Madame Soleiller, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à Tolkien. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de votre passion pour Tolkien.
Bonjour, alors ma passion pour Tolkien, eh bien, elle a débuté en troisième à votre âge. Alors je ne l'explique pas vraiment, hein, je suis tombée amoureuse du texte et depuis il ne m'a pas quittée. Et après le texte, je me suis intéressée à l'œuvre et puis à l'auteur. Voilà.
D'accord, est-ce que vous saviez combien de langues a-t-il créé? Et pouvez-vous m'en citer quelques-unes?
Alors, les langues que Tolkien a créées, je ne sais pas si on peut les comptabiliser vraiment, puisqu'il a commencé très jeune. Les langues qu'il a créées pour la Terre du Milieu sont aussi nombreuses, et elles s'inscrivent un peu comme les langues de notre monde à nous, si on peut dire, parce qu'il en a créé plusieurs qu'il a après... améliorer selon l'évolution des peuples. Par exemple, pour les elfes, il y a eu une première langue, puis après, il y a eu d'autres langues selon les lieux d'habitation, par exemple des elfes, la Lothlorien, etc. Donc, par exemple, il y a le Kenya, le Twengar, etc. Et puis, pour les hommes aussi, il y a des langues, pour les nains, enfin, chaque peuple de la Terre du Milieu a son propre langage, son propre alphabet et ses propres évolutions linguistiques.
Comment s'appelait l'univers de Tolkien et de quoi parlait-il ?
Alors, l'univers de Tolkien, il a créé donc ce qu'on appelle la Terre du Milieu. Et donc, il a créé toute une civilisation, toute une mythologie donc qui va de la création de la Terre du Milieu jusqu'à des âges avancés. Donc, la création de la Terre du Milieu, on la retrouve dans le Silmarillion, en grande partie. Et après, si on veut vraiment lire des histoires qui se passent sur la Terre du Milieu, il faut lire Bilbo et Le Seigneur des Anneaux, qui sont ses textes les plus aboutis. Puisqu'après, on a les contes et légendes qui sont inachevés, qui sont sortis, mais que Tolkien n'avait pas fini, par exemple.
Quel livre de Tolkien avez-vous préféré ?
Bah, mon préféré, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais on ne peut pas exclure Bilbo, donc c'est Bilbo et le Seigneur des Anneaux, comme beaucoup. Après, il y en a qui aiment beaucoup aussi le Silmarillion, parce que c'est la création de la Terre du Milieu et c'est plus mythologique, mais moi, c'est vraiment Bilbo et le Seigneur des Anneaux. Je pourrais me les lire tous les ans sans aucun souci.
Si vous auriez pu le rencontrer, quelles questions auriez-vous aimé lui poser ?
Grande question, justement. Je ne sais pas. Je pense que j'aurais été tellement intimidée que j'aurais été incapable de lui demander quoi que ce soit. Et non, j'ai pas vraiment une question. Je pense que j'en aurais plein et que j'aurais aimé passer du temps avec lui, comme beaucoup, pour discuter autour de son œuvre. Mais j'aurais pas une seule question comme ça.
Merci à vous deux.
Merci.
Désormais, au plus grand plaisir de nos oreilles, nous allons écouter un peu de musique.
Voici un extrait de la bande-son originale du Seigneur des Anneaux, intitulé The Sound of the Shire. Bonne écoute!
Ah, que de bons souvenirs en écoutant cette musique. Je suis certain que les prochaines personnes que nous allons écouter, elles aussi, ne sont pas insensibles à la mélodie de cette bande originale. Interviewée par Lise Fougerard, Rose Tamalet, qui a eu le courage de redécouvrir ses classiques, va désormais tenter de comparer l'œuvre littéraire de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, avec l'œuvre cinématographique de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux 1.
Alors Rose, as-tu aimé lire Le Seigneur des Anneaux ? Moi, en voyant l'épaisseur de ce livre, j'ai vite pris peur.
Au début, je me suis dit que je n'arriverais pas à le lire jusqu'au bout, mais finalement, il est si entraînant. Le monde que Tolkien a créé est unique en son genre.
Fabuleux ! Du coup, vu que je n'ai pas lu le livre ni regardé le film, j'aimerais que tu me fasses un résumé fantastique.
Alors, je vais faire simple. Suite au don de l'oncle de Frodon, Bilbon Sacquet, Frodon obtient obtient un anneau qui semble donner des pouvoirs. En effet, dès que Frodon le passe au doigt, il devient invisible. Une communauté constituée d'un représentant de toutes les races de la Terre du Milieu, un elfe, un nain, deux hommes, un magicien et trois hobbits et amis de Frodon l'aideront à détruire cet anneau. Cependant, Sauron s'oppose à cette idée. Alors lis ton avis, est-ce que tu retenterais ta chance auprès du livre ?
Je sens que Le Seigneur des Anneaux sera ma prochaine sortie ciné. Pour mes chers auditeurs, leur conseillerais-tu de lire le livre ou de voir le film ?
Voir le film peut être une facilité pour certains. Néanmoins, d'autres personnes préféreront s'inventer leur propre vision de ce monde. Pour ces derniers, je leur conseille donc de lire le livre.
Et une dernière question, Rose. Vu que tu as lu le livre et regardé le film, peux-tu nous dire quelles sont les différences entre les deux ?
Je trouve que le livre rentre plus dans les détails, notamment sur les personnages, et surtout des passages entiers ont été enlevés pour cause de budget. Le film reste également la vision du réalisateur, Peter Jackson, qui a remanié des passages. Par exemple, Arwen, une elfe, a un plus grand rôle et elle est plus présente à l'écran que chez Tolkien.
Super, merci Rose pour cette interview.
Merci à toi Lise, ce fut un plaisir.
Merci beaucoup. Pour mettre en relief la capacité de Tolkien à créer un véritable monde, ce qui a été évoqué dans cette interview, quoi de mieux que de vous lire un passage du roman de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Pour cela, je vais faire appel à Louise Desaireaux. Louise, c'est à toi.
Le Seigneur des Anneaux, tome 1, La Communauté de l'Anneau, Pocket, Prologue des Hobbits, chapitre 3. Il est autre chose à mentionner au sujet des hobbits du temps jadis. Une habitude étonnante. Ils aspiraient ou inhalaient, au moyen de pipes en terre ou bois, la fumée des feuilles en combustion, d'une herbe qu'ils appelaient herbe ou feuille à pipe. Sans doute une variété de nicotiana. Une bonne dose de mystère entoure les origines de cette coutume particulière, de cet art comme les hobbits préféraient l'appeler. Tout ce qui a pu être découvert à ce sujet dans l'Antiquité a été réuni par Meriadoc Brandebouc, par la suite maître du pays de Bouc. Et, puisque lui-même et le tabac du quartier jouent un rôle dans l'histoire qui suit, il sera bon de citer l'introduction à son herbier de la comté. Cet art, dit-il, est bien celui que nous pouvons revendiquer comme étant de notre invention. On ne sait quand les hobbits commencèrent à fumer. Toutes les légendes et les histoires de famille le considèrent comme chose établie. Durant des siècles, les gens de la comté fumèrent différentes herbes, certaines nauséabondes, d'autres odorantes. Mais tous les documents s'accordent sur le fait que ce fut Tolblot Sonnecor de Longoulay, dans les quartiers sud, qui le premier fit pousser la véritable herbe à pipe dans ses jardins, du temps d'Isengrin II vers l'an 1070 de la datation de la comté. Le meilleur de tout le pays provient toujours de ce district, spécialement les variétés connues sous le nom de Feuille de Longoulay, Vieux Toby et Étoile du Sud. Il n'existe aucune trace dans la façon dont le vieux Toby trouva la plante, car il ne voulut jamais la révéler de son vivant. Il avait une grande connaissance des herbes, mais il n'était pas voyageur. On dit que dans sa jeunesse, il se rendait souvent en Brie, encore qu'il ne se fût jamais éloigné davantage de la comté. Il est donc fort possible qu'il ait eu connaissance de cette plante en Brie, où maintenant en tout cas, elle pousse bien sur les versants sud de la colline. Les hobbits de Brie prétendant avoir été les premiers fumeurs de l'herbe à pipe. Ils prétendent naturellement avoir tout fait avant les gens de la comté, qu'ils traitent de colons. Mais dans ce cas-là, leur prétention est à mon avis sans doute justifiée. Et c'est certainement de Brie que l'art de fumer l'herbe véritable se répandit au cours des siècles récents, parmi les nains et autres gens tels que les rôdeurs, les magiciens ou les vagabondes qui allaient et venaient encore par cet ancien carrefour de route. Le lieu et centre de l'art se trouvent ainsi dans la vieille auberge de Brie, le Poney Fringant, tenu de temps immémorial par la famille Poire de Beurré. Néanmoins, certaines observations que j'ai faites au cours de mes nombreux voyages dans le sud m'ont convaincu que l'herbe même n'est pas originaire de notre partie du monde, mais qu'elle est venue vers le nord de l'Indo inférieur, où elle fut, je l'imagine, originairement importée par mer par les hommes de l'Outre-Ness. Elle pousse en abondance en Gondor, elle y est plus plantureuse et plus grande que dans le nord, où on ne la trouve jamais à l'état sauvage, mais où elle ne croît qu'en des endroits chauds et abrités comme Longoulay. Les hommes de Gondor la nomment Galenas douce, et ils ne l'apprécient que pour la fragrance de ses fleurs. De cette terre, elle a dû être transportée par le chemin vert au cours des siècles qui s'écoulèrent entre l'avenue d'Elendil et notre propre époque. Mais les Dunedain de Gondor, eux-mêmes, nous accordent que les premiers à la mettre dans des pipes furent les hobbits. Même les magiciens n'y pensèrent pas avant nous, encore que l'un d'entre eux, que j'ai connu, se soit adonné à cet art il y a bien longtemps et qu'il fût devenu aussi habile qu'en tout ce à quoi il s'appliquait.
Merci Louise pour cette lecture qui, en effet, souligne l'imagination débordante dont Tolkien était pourvu. Pour ajouter un peu d'humour dans ce programme, j'appelle maintenant Malo Bernard et Mathieu Sadrin qui vont nous partager l'élaboration d'une recette elfique. C'est bien ça ?
Effectivement.
Eh bien alors, c'est à vous.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans la rubrique culinaire, nous allons vous expliquer comment cuisiner des lambasses, ce plat typique des elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Pour cela, il vous faut 3 œufs, 25 centilitres de miel, 3 kumquats, 2 cuillères à café de fleurs d'oranger ou de rose, ou un arôme noix de coco pour le côté exotique, 85 g d'amandes hachées ou de noix de macadamia, 6 centilitres de beurre fondu, 50 g de farine de blé ou d'orge, et une demi-cuillère à café de sel.
Pour commencer la préparation, préchauffez le four à 180 degrés. Ensuite, versez tous les ingrédients, sauf la farine, dans un robot ou un mixeur, et attendez 3 à 4 minutes avant d'incorporer la farine. Une fois la farine bien mélangée, séparez la pâte en plusieurs parties de la forme de votre choix. Mettez du papier cuisson sur votre support et mettez-y votre pâte. Enfournez votre préparation dans le four à 180 degrés pendant 10 minutes. Une fois prêt, dégustez vos repas elfiques sur place ou à emporter. Un conseil, mangez cette denrée exquise tant qu'elle est encore chaude. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci les garçons, vous m'avez donné faim. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de la première partie de cette émission. Dans quelques minutes, vous retrouverez Lison Melin pour clôturer celle-ci.
Nous vous laissons sur une compilation des moments cultes du film Le Seigneur des Anneaux. Bonne journée.
Un magicien n'est jamais en retard.
Surtout ne me prenez pas pour un magicien de pacotille.
Est-il caché? Est-il en sûreté?
Quand Saruman le sage a-t-il abandonné la raison pour la folie?
Qu'en est-il du second petit déjeuner?
Abattez-les tous.
Une mine!
Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Faut toujours suivre son flux.
Crétin de Touk!
Vous ne passerez pas!
Fuyez, pauvre fou!
Allons chasser de l'orque.
Nous les nains, nous sommes des splinters.
Ils courent comme si les fouets de leur maître étaient à leur trousse.
Qu'est-ce que tu as dit?
Stupide bide soufflu!
Il n'y aura pas d'aube pour les hommes.
Il y a toujours de l'espoir.
Dois-je tout vous décrire? Ou vous trouver un marchepied?
Je n'ai pas digne d'un magicien.
Autant de morts. Mais que peuvent les hommes face à tant de haine?
La bataille du gouffre de Helm est terminée. Celle pour la terre du milieu ne fait que commencer.
Crétin de Touk!
C'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. L'échiquier est en place. Les pièces avancent. La mort n'est qu'un autre chemin.
Jamais je ne laisse songer mourir au combat aux côtés d'un elfe.
Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami?
Bonjour, je suis Lison et je vais animer cette partie de l'émission. Pour commencer, Arthur nous parle d'Oxford et du parcours de Tolkien là-bas, suivi d'une interview entre Alissa et Justine.
Merci Lison, je m'appelle Arthur et je vais vous parler d'Oxford avec Justine et Alissa. Oxford est une ville d'Angleterre située un peu au-dessus de Londres. C'est donc là que se trouve la plus ancienne université anglaise, accueillant environ 23 000 élèves. L'université est composée de 36 collèges et de 6 fondations religieuses. L'existence de l'université remonte à plus de 900 ans. Cet institut est l'un des meilleurs au monde et a formé des personnalités marquantes comme David Cameron, Theresa May, Bill Clinton, Margaret Thatcher, mais aussi des écrivains comme Lewis, qui a écrit Le Monde de Narnia, ou encore Lewis Carroll, qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, ou encore John Ronald Reuel Tolkien. Et oui, Tolkien a étudié à Oxford et a surtout enseigné là-bas en tant que philologue. Mais même si son travail était très prenant, il a continué de noircir des dizaines et des dizaines de pages hors de son travail. À Oxford, il y enseignera 20 ans et rencontrera un autre écrivain, qui par la suite deviendra son ami, Lewis. Lewis poussa Tolkien à publier ses histoires, Tolkien finit donc par céder et il fit éditer Le Hobbit. Pour en revenir à son travail à l'université, il était philologue, traducteur et professeur. Le mot philologue signifie qu'il étudiait les langues anciennes à partir de différents textes. Et c'est grâce à ses métiers en tant que philologue et traducteur qu'il fut célèbre pour la première fois. Il a traduit un texte en ancien anglais nommé Beowulf. Ce texte était très dur à traduire et personne n'y était arrivé jusqu'à lui. C'est lors d'une conférence, The Monster and the Critics, que Tolkien présente sa traduction de Beowulf. Mais pour en parler un peu plus, j'ai invité Alissa, une élève, qui étudie à Oxford et qui est de passage en Creuse.
Merci Arthur. Nous avons donc le plaisir d'accueillir cette ancienne élève interviewée par Justine.
Bonjour Alissa.
Bonjour.
Alors comme ça, tu es à Oxford?
Oui, c'est ça.
Et depuis combien de temps?
Depuis 3 ans maintenant.
Et tu y fais tes études?
Oui, beaucoup de grands écrivains y ont aussi étudié, comme par exemple Lewis Carroll, Oscar Wilde et bien sûr Tolkien.
Et tu trouves ça difficile?
C'est une université très renommée. Y entrer n'est pas facile, mais si on travaille, ça va.
Et que pourrais-tu nous dire de Tolkien?
Il est très célèbre à Oxford. C'est quand même le créateur de la fantasy.
Tu pourrais nous en dire plus sur la fantasy?
Bien sûr. La fantasy est un genre littéraire où la magie est omniprésente, souvent dans un monde imaginaire. Elle ne doit pas être confondue avec le fantastique, qui représente plutôt l'irruption de la magie dans le monde qu'on connaît. Tolkien s'est inventé son propre monde avec des peuples, des langues et des lois bien particulières. Il nous a décrit ce monde à travers Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit.
Et depuis quand tu t'intéresses à lui?
Depuis mon entrée à Oxford. Il me passionne et puisqu'il a étudié là-bas, je suis dans les mêmes bâtiments.
Ah oui? Et tu voudrais devenir écrivain?
Oh oui, j'aimerais tellement pouvoir me créer mon propre monde, moi aussi, et pouvoir vous le raconter.
Très bien, alors je te remercie d'avoir participé à cette interview.
Je vous remercie. Je vous rappelle d'ailleurs que la semaine prochaine, nous serons à Oxford et nous pourrons visiter les lieux où Tolkien a fait ses études. Mais revenons chez nous, à la Cité de la Tapisserie d'Aubusson, où une exposition se déroule actuellement sur Tolkien. Vous le découvrirez après une page de pub jouée et écrite par Théo et Corentin.
Vous vous sentez en danger? Pas de soucis, les alarmes Gandalf vous préviennent dès l'approche d'un ennemi. Avec ça, ils ne passeront pas.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller.
Rejoignez notre banque, Smog, ne vous inquiétez pas. On protège votre argent, même contre les hobbits.
Tu ne sais pas ce qu'il m'est arrivé?
Non, quoi?
Quelqu'un est rentré chez moi ce matin. En me préparant, j'ai déposé une boîte de bijoux sur mon meuble.
Et alors?
Je l'ai retrouvée sur mon lit.
Non, mais t'es complètement parano, ma pauvre fille.
Vous êtes paranoïaque? Vous voulez avoir un œil qui voit partout? Aucun problème, les caméras Sauron sont là pour vous.
Besoin de vous enfuir? Pas de soucis. Louez nos tonneaux Rivendell. Testez et approuvez pour résister aux orques.
Maintenant, c'est au tour de Théodore qui nous explique le contenu de l'exposition sur Tolkien à la Cité de la Tapisserie d'Aubusson.
Toujours sur Tolkien, si vous ne le saviez pas déjà, une exposition a lieu en ce moment même à Aubusson dans la Cité de la Tapisserie. En effet, cette exposition a comme sujet, et vous l'avez sûrement déjà deviné, Tolkien. Les lycéens s'attellent à une tâche bien compliquée cette fois. En effet, ceux de la Cité de la Tapisserie d'Aubusson et d'autres encore ont jusqu'en 2021 pour tester 20 tapisseries et un tapis sur les œuvres de Tolkien. Actuellement, une de ces tapisseries est en cours de tissage, c'est Rivendell, dont le paysage est fortement inspiré de Suisse. En parlant de cela justement, nous avons pu obtenir l'avis et le ressenti d'une personne ayant visité l'exposition et ayant pu voir la tapisserie en cours de tissage.
Tout à fait, Théodore. C'est d'ailleurs Mélina qui va interviewer Maëlia qui a visité la fameuse exposition. À vous les filles.
Merci Lison. Donc Maëlia, tu as été visiter la cité de la tapisserie ?
Oui.
D'accord, alors dis-moi quels ont été ton ressenti, les émotions ?
J'ai tout d'abord été impressionnée par l'investissement de la cité de la tapisserie d'Aubusson dans la réalisation de tapisseries similaires à des dessins présents dans les livres de Tolkien. Afin d'arriver à accomplir ce projet, trois femmes travaillent 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Lors de ma visite, ces femmes travaillaient sur la tapisserie Rivendell, comme l'a présenté Théodore. La façon dont les tisseuses assemblent les couleurs, entremêlent les fils de laine et la synchronisation qu'elles fournissent, tout cela m'a émerveillée. Leur travail est minutieux, tout comme le choix des couleurs utilisées, qui doit correspondre parfaitement aux couleurs du dessin d'origine.
Que retiens-tu donc de cette visite ?
Je retiens de cette visite le fait que ce projet est impressionnant, mais que le final est splendide et mérite d'être vu. Je vous invite donc à aller voir cette exposition. Je tiens à préciser que la cité ouvre de 9h30 à midi et de 14h à 18h, sauf le mardi, puisque celle-ci est fermée.
Eh bien, merci pour ton interview, Maëlia.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Et merci aussi à Radio Vassivière de nous avoir accueillis et permis de faire cette émission. N'oublions pas Elisa, Maëva et Emma, qui étaient présentes pour nous aider, ainsi que Mathieu pour les musiques et bruitages. Pour nous quitter, voici la musique de fin du Seigneur des Anneaux.
Au revoir.